Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous et à tous, chers auditeurs. C'est Hugo à l'animation. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris en direct pour la matinale de 19h.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 30 septembre, une belle journée ensoleillée pour commenter de la montée du fascisme. Puisque nouvelle semaine, nouvelle dinguerie, Trump a déclaré que ce serait une insulte à l'Amérique s'il ne recevait pas le prix Nobel de la paix. Puisqu'après tout, faire la paix à son peuple, ça compte pas. C'est pas comme s'il avait déclaré, je sais pas, vouloir annexer le Groenland. Non. Ça compte pas. Alors, bien sûr, je pourrais en dire beaucoup, beaucoup. Mais je préfère vous parler de ceux, mais surtout de celles, qui se font insulter, et ce, toute l'année et à longueur d'année. Puisque, rappelons-le, que dans le monde, une femme sur trois déclare avoir été victime d'agression ou d'harcèlement sexuel. Et qu'en France, on décompte en moyenne un féminicide tous les 3 jours. Alors bien sûr, face à cette réalité, des lieux que l'on espère safe et où faire la fête existent, comme bien sûr les soirées techno, mais malheureusement, ces soirées, tout comme le reste du monde de la nuit, ne sont pas épargnées par les violences sexistes et sexuelles. Il est alors nécessaire de s'interroger pour que ces lieux, souvent décrits comme émancipateurs et festifs par certains, le soient pour tous et pour toutes. Surtout quand, selon le rapport de nos nuits sous tension, qui décrit que 8 femmes et personnes non binaires sur 10 déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles sur un lieu festif, un chiffre malheureusement en hausse depuis 2018. Et au programme ce soir, nous recevons donc Julie Lallouet, membre de Consenti, l'association qui a réalisé le fameux rapport Nos Nuits Sous Tension, et Sarah Gamrani du collectif Au-delà du Club, et co-autrice de l'étude Briser le Cercle, ces deux rapports traitant des violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs et de la nuit. Au Flash Info, nous retrouverons Hélène. Pour le Zoom, ce sera Hubert qui viendra questionner Olivier Michel de La Pop, l'endroit où aura lieu le festival Remix. Et pour finir en beauté, ce sera autour de la chronique de Fabien.
La matinale de 19h.
Et c'est le tour de la grande interview. Et nous retrouvons donc Sarah et Julie, de deux collectifs féministes qui viendront traiter des violences sexistes et sexuelles au milieu de la nuit. Et à l'interview, nous retrouvons
Élodie.
Merci.
Salut les filles. Alors Sarah, du coup, tu es membre du collectif, ou plutôt de la collective Au-delà du Club, qui est un laboratoire de recherche pour des nuits plus inclusives. Tu es aussi du coup co-autrice de l'étude Briser le Cercle sur les violences sexistes et sexuelles et discriminatoires en milieu festif et dans l'écosystème nocturne. Julie, toi, tu es membre de Consentis, qui est une autre association de prévention des violences sexuelles et discriminatoires en milieu festif également. Et tu as co-réalisé une autre étude, du coup, qui s'appelle Nos Nuits Sous Tension, sur le même sujet. Donc vous êtes toutes les deux membres de deux collectives, associations différentes qui luttent et travaillent autour finalement du même sujet, celui des violences sexistes, sexuelles et discriminatoires en milieu festif. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter Au-delà du Club et Consentis, oui, et puis nous parler un peu de votre rôle dans ces associations, dans cette collective?
Bonsoir. Du coup, je commence. Moi, c'est Sarah, donc je suis cofondatrice d'Au-delà du Club. Tu l'as bien expliqué déjà, mais on est un laboratoire de recherche autour des enjeux festifs, des espaces festifs. Et nous, principalement, notre médium d'expression, c'est la recherche, la publication. Et du coup, donc, on a un format de publication de revue qui s'appelle Flashies, paroles et images pour réinventer la nuit, dans lequel on explore toutes ces thématiques avec les voix et les mots des artistes, de collectifs, qui qui sont très actifs et actives dans nos nuits locales ou même dans d'autres pays. Et du coup, au-delà du club, en tant qu'association et collective, est aussi donc membre de Réinventer la Nuit, qui est une initiative, un mouvement composé d'artistes et d'associations déjà existantes, dont Au-delà du club, mais aussi Consentis, et je te laisserai en parler après. Et du coup, l'idée, c'était en fait d'unir nos forces donc et nos savoir-faire déjà et nos connaissances dans cette initiative-là pour faire résonner nos luttes et nos travaux. Donc, Réinventer la Nuit, c'est aussi des outils et des protocoles qui sont mis à disposition gratuitement en ligne. Donc, par exemple, des riders techniques qui sont donc des outils pour les artistes et professionnels qui organisent des soirées ou des événements festifs, on va dire, qui accueillent du public. Et c'est aussi des outils physiques, en tout cas en présentiel, avec du coup l'organisation de cercles de parole donc qui se passent de façon mensuelle au point éphémère. Donc, une fois par mois, on facilite ces cercles-là qui sont des espaces de soins et des espaces politiques de dépôt de témoignages ou d'expériences vécues dans le cadre de nos expériences professionnelles dans le secteur de la musique. Donc ça, c'est un peu pour nos initiatives, et je te laisse bien sûr la parole pour Consentis.
Julie Laloé, donc pour Consentis. Moi, je suis co-coordinatrice de l'association qui est composée de 7 personnes salariées et une quarantaine de bénévoles. Nous, on est nés en février 2018 dans la mouvance du mouvement MeToo de 2017. C'est une asso qui a été créée par des gens qui aiment et font la fête, pour des gens qui aiment et font la fête, mais qui se retrouvaient plus dans ces espaces du fait justement du trop gros nombre de violences sexistes, sexuelles et discriminations auxquelles on était exposés dans ces espaces. Et donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est tenir des stands directement au milieu festif pour parler avec les gens qui font la fête de leur rapport au consentement, amener des éléments de sensibilisation, parler de consentement, remettre un peu le consentement au centre des interactions qu'on peut avoir dans ces espaces. Et petit à petit, on a développé tout un tas d'autres activités autour de ça, notamment des activités de formation via nos expériences de terrain et nos parcours au sein de l'asso. Et donc, on forme les organisations, les bars, les salles de concert, les assos étudiantes. On intervient aussi dans l'enseignement supérieur pour justement essayer de créer une culture de la fête qui est beaucoup plus centrée sur le consentement, en opposition à la culture du viol, qui est donc le fait qu'on aille au-delà des limites des gens sur le sujet du consentement sexuel. Donc ce qu'on a fait, c'est lancer des enquêtes, donc là aussi à notre lancement et qui est renouvelé aujourd'hui. Et à côté de ça, on fait partie de plusieurs initiatives. On travaille avec les mairies, mairie de Paris, mairie de Nantes, et participer à le fait de porter ces sujets au niveau national et aussi un peu européen pour essayer de faire en sorte de faire bouger les lignes et que les personnes se sentent plus à leur place et à leur aise et que les structures soient en position de faire changer les choses et de bien réagir en fait quand il se passe quelque chose et d'élaborer des protocoles qui permettent d'anticiper les violences et de mieux les traiter quand elles surviennent.
Est-ce que dans un premier temps, rapidement, on pourrait définir ce que sont les violences sexistes, sexuelles et discriminatoires? Parce que c'est des mots qu'on entend parfois, peut-être un peu de plus en plus. Mais concrètement, dans le milieu festif, comment ces violences-là, elles peuvent être décrites?
Dans le milieu festif, nous, on va aussi reparler tout simplement de ce qui existe déjà dans le code pénal. Mais il y a malheureusement, en termes de violences sexuelles, des viols, des agressions sexuelles, du harcèlement tout court, à caractère discriminant, raciste, LGBTQA-phobe, et des agressions à caractère raciste et LGBTQA-phobe aussi. Donc on se rebase sur les violences qui existent déjà dans d'autres espaces. Ce qui change un petit peu dans le milieu festif, c'est qu'elles peuvent prendre des formes un petit peu particulières du fait de la promiscuité, de la consommation de produits, du fait qu'il fasse nuit. Donc ça, c'est des choses qui vont venir interférer sur les sujets des violences et faire qu'elles prennent des formes un peu spécifiques. Et on va retrouver beaucoup le sujet des agressions sexuelles en réalité en soirée. Par exemple, concernant les violences sexuelles, ça va être des gens qui se frottent à d'autres personnes, des personnes qui mettent des mains aux fesses, ce genre de choses. Et harcèlement, des propos déplacés, que ce soit sur le sujet du sexisme, des propos transphobes, des agressions à caractère raciste aussi, des personnes qui sont touchées leur afro sans leur consentement, par exemple. Donc c'est toutes ces violences qui sont déjà présentes dans le reste de la société qu'on retrouve dans ces espaces, de manière assez similaire finalement.
Alors ces enquêtes, elles révèlent justement l'ampleur persistante de ces violences sexistes et sexuelles et discriminatoires dans le milieu festif. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mener ces enquêtes, ou plutôt c'était quoi un peu l'élément déclencheur? Pourquoi vous vous êtes dit ok, il faut vraiment qu'on s'intéresse en profondeur à tout ce qui se passe?
Nous, quand on est nés du coup en février 2018, l'idée c'était de se dire oui, bien sûr, on est des personnes qui ont constaté ça dans nos parcours festifs, mais on veut
regarder d'abord, est-ce vrai que ça concerne tout le monde ou ça ne concerne que nous ? Et partir de données chiffrées pour ensuite faire de la sensibilisation. À l'époque, juste après le MeToo de 2017, pour le coup, on parlait beaucoup moins des violences sexuelles. C'était un non-sujet, le consentement, pendant très longtemps, même si évidemment les personnes concernées en parlaient déjà beaucoup. Mais là, on s'est appuyé là-dessus pour dire en fait, regardez la réalité. Maintenant, en formation, par exemple, les gens ne tombent plus de leur chaise quand on leur dit il y a des violences sexuelles en milieu festif. À l'époque, c'était plus le cas. Donc voilà, on a porté ces chiffres, ils ont été beaucoup réutilisés notamment dans la presse et ça nous a permis de partir sur une base un peu scientifique dans le sens où c'est quand même souvent ce qu'on nous demande et ce qu'on demande aux victimes en disant mais est-ce que c'est pas un cas à part, est-ce que il se peut passer ça parce que t'étais dans une situation particulière, là non, les données elles parlent d'elles-mêmes, plus de 60% des femmes déclarent avoir été victimes de violences sexuelles en milieu festif en 2018 et là dans l'enquête comme ça a été dit en introduction plus de 8 femmes et personnes non binaires sur 10 déclarent avoir déjà subi des violences sexuelles en milieu festif. Donc là, on a des données beaucoup plus spécifiques sur les identités de genre qu'on n'avait pas à l'époque. On avait des données très binaires. Donc là, on a la réalité qui émerge pour les personnes issues de la communauté LGBTQA+, aussi, et qui permet aussi d'affiner l'analyse et de montrer que parfois, il y a certains espaces où les personnes qui ne sont pas de la communauté se sentent bien, comme les festivals. Le taux sentiment d'insécurité, il baisse dans ces espaces. Là où pour les personnes trans, par exemple, les festivals, ça reste des espaces d'insécurité forts. Donc là aussi, nécessité de qualifier les violences, d'où l'intérêt des chiffres, pour ensuite s'adresser aux structures en disant « adaptez vos protocoles, formez vos équipes sur ces questions, sur les questions de transphobie par exemple, et ensuite prenez en compte que les victimes n'ont pas tous le même vécu en fonction de leurs identités et de leur réalité de vie. »
Alors, tu veux rajouter quelque chose, Sarah ?
Oui, concernant l'étude, de notre côté, qui est du coup un peu le parti pris inverse, mais du coup trop bien car complémentaire, qui est du coup pas du tout de chiffres. Donc dans cette étude Briser le cercle, nous c'est du qualitatif, donc à l'inverse du quantitatif. Donc nous on se base en fait sur, donc je parlais des cercles de parole mensuels qui ont lieu au point FMR. Donc nous on est parti donc des expériences qui ont été témoignées pendant ces cercles-là pour ensuite visibiliser en fait les violences sexistes, sexuelles et discriminatoires, les valoriser, donc partir du récit intime, des expériences subjectives et leur donner du coup autant de poids et de valeur que les chiffres. Et ça permet en fait en complément du coup d'avoir et ces chiffres-là et ensuite un peu plus les parcours de violences, les espaces-temps où ces violences arrivent, les impacts psychologiques que ça a sur les victimes de violences, les impacts sur les vies, en fait, sur les carrières également. Donc en fait, ça nous a permis d'avoir en fait toutes les subtilités, tous les endroits, en fait, l'impalpable qu'on n'arrive pas forcément à déceler dans les chiffres et qui permettent de venir un peu complémenter ça, quoi. Donc voilà.
Alors, je lis justement les résultats de l'enquête de Consentis, du coup, ont confirmé que les violences, elles ne sont ni exceptionnelles ni marginales et que même si des efforts dans la prévention ont été faits ces dernières années, on observe quand même que ces violences, elles sont encore trop nombreuses. Est-ce que tu peux nous parler peut-être plus en détail de certains résultats, peut-être ceux qui sont finalement les plus marquants, et aussi, est-ce qu'il y a une différence avec les résultats de l'enquête que vous avez menée en 2018 ?
Alors oui, il y a une différence parce que pour le coup, l'enquête de 2018, elle montrait des violences massives. Donc 60% des femmes déclaraient avoir été victimes de violences sexuelles, 10% des hommes. 57% des femmes disaient se sentir en insécurité dans les lieux festifs du fait de la peur d'être victime de violences sexuelles. Donc l'enquête, elle a montré une continuité dans ce sujet des chiffres massifs. En revanche, elle est quand même très différente dans le sens où justement il y a cette approche focus LGBTQA-phobie qu'on n'avait pas du tout avant. Donc par exemple, un des chiffres marquants, c'est que les personnes issues de la communauté LGBT ont été beaucoup plus exposées au sujet des agressions sexuelles en milieu festif que les personnes qui ne sont pas issues de la communauté. 69% des personnes issues de la communauté ont déjà été agressées sexuellement en milieu festif et 50% des personnes non LGBTQA+. Donc ça montre quand même une surexposition à partir du moment où tu t'identifies comme appartenant à cette communauté. Juste ce que je disais sur les lieux de fête, donc ça fait aussi partie des résultats qui sont notables sur le fait que les boîtes de nuit, les raves, les bars, ils sont perçus comme les plus insécurisants par les publics minorisés notamment. Par exemple, 63% des personnes non binaires, 46% des femmes trans, 48% des femmes cis et 45% des hommes trans disent s'y sentir en insécurité, contre 20% des hommes cisgenres. À l'inverse, par exemple, dans les festivals, ça tombe à 10% pour les femmes cis et ça ça reste à 38,9% pour les hommes trans. Et ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est que les milieux festifs LGBTQA+, même si bien sûr il y a des violences qui s'y déroulent encore, le taux d'insécurité il est quand même beaucoup plus faible que dans les espaces non LGBTQA+. Ça tombe entre 8 et 11% selon le genre, le sentiment d'insécurité dans ces espaces. Donc là, en fonction des lieux, on voit des différences qui sont notables. Et un des résultats aussi qui était intéressant, c'est... qui est responsable de la sécurité du public d'après le public lui-même? Eh ben, ça reste les organisations. Une majorité des participants considèrent très clairement que les établissements festifs ils sont responsables de leur sécurité. Donc nous, ça va... Bon, ça nous rassure parce qu'on travaille dans le bon sens. Ça veut dire que ce qu'on fait depuis des années pour essayer de former les établissements qui comprennent mieux le sujet des violences, qui mettent en place des choses claires pour que le public soit bien pris en charge, etc., c'est des choses sur lesquelles on compte aujourd'hui et qui peuvent réellement changer les choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment les résultats notables. Après, un des résultats qu'on avait déjà en 2018 mais qui est encore présent cette année, c'est le fait de désigner les espaces festifs comme des espaces où on ne va pas principalement faire des rencontres amoureuses, mais on y va d'abord, les raisons numéro un qui sont évoquées par le public, c'est profiter de la musique, passer des moments entre amis, etc. Et donc, c'est des espaces qui sont là pour aussi une sorte de soin santé mentale, parce que c'est des espaces qui sont censés te faire du bien, où tu peux profiter, exprimer ton identité aussi. Et donc, ça, c'est des choses qui ressortent encore aujourd'hui. Mais du coup, ce truc d'associer systématiquement les espaces festifs avec des espaces de drague et du coup, quand on confond drague et harcèlement, ça commence à poser problème, et c'est ça qui pose problème aussi à plein d'endroits. C'est quand même des choses qui ressortent en grande majorité. Et
merci beaucoup Julie pour cette question. Je t'interromps parce que on vous retrouve juste après Body Prison d'Evita Mungi. C'est la pause musicale. C'était Body Prison d'Evita Mungi. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, toujours avec Sarah Gamrani et Julie Laloué pour parler des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Et c'est toujours Elodie à l'interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Merci. Alors avant de parler des résultats de l'enquête de Au-delà du club, je voudrais qu'on revienne peut-être sur les méthodologies que vous avez pu employer pendant ces enquêtes-là. Combien de temps elles ont mis ces enquêtes? Qui était le public? Avec qui est-ce que vous avez pu travailler? Voilà, là. Et ensuite, on pourra discuter des résultats de l'enquête d'Au-delà du club.
Ok, nous, c'est en gros, donc ça s'est fait sur 11 cercles de parole entre octobre 2023 et février 2025. Il y a au total 84 participantes. Je crois qu'il y a eu 130 inscrites, mais il n'y a pas tout le monde qui vient en fait à chaque fois. Donc, c'est un total de 84 participantes sur ces cercles de parole-là. Et en fait, il y avait à chaque fois une personne qui venait donc prendre des notes pendant les cercles de parole, anonymisés bien sûr, avec accord des participantes. Et donc il y avait une grille d'analyse, donc chaque témoignage était donc passé en fait dans cette grille d'analyse où on collectait du coup les données de si une violence avait été subie, le lieu, par qui, enfin quel poste ou enfin quelle fonction la personne autrice de violence occupait, dans quel lieu, à quel moment, le type, la typologie en fait de violence, est-ce que c'était une violence verbale, physique, symbolique, enfin voilà, on a un peu genre répertorié ça dans une grille d'analyse. Et en fait après cette grille d'analyse nous a permis de tirer donc des grands constats, donc je pourrais un peu plus détailler tout à l'heure, mais globalement nous c'était vraiment voilà de la prise de notes analytique pendant les 11 cercles de parole sur plus d'un an et demi en fait.
Et vous, c'était différent chez Consentis?
Oui, pour le coup, c'était vraiment nous du quantitatif. Donc on a élaboré un questionnaire qui prenait 10 minutes à répondre et on l'a diffusé sur les réseaux sociaux, sur les nôtres, et on l'a fait tourner aussi par nos partenaires. Donc on a eu 3000 répondants, répondantes, ce qui était un beau panel pour une enquête d'association. Et après, les résultats, les réponses qu'on a eues, c'est quand même majoritairement issues de personnes jeunes, entre 18 et 35 ans. Ça représente plus de 70% des répondants, répondantes. Et aussi une majorité de femmes cisgenres. 65% des répondantes étaient des femmes cisgenres. Et donc pour les autres identités de genre, on a quand même des échantillons qui sont moindres, mais ça nous permet quand même de sortir des données des données suffisantes pour élaborer des pourcentages et en sortir des tendances qui sont intéressantes et qu'on a peu encore en fait des chiffres sur les autres identités de genre. Donc voilà, pour l'enquête Consentis globalement, réseaux sociaux.
Alors Sarah, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des principaux résultats, des principaux constats que vous avez pu faire grâce aux témoignages que vous avez pu recueillir?
Oui, j'ai essayé de faire court, mais du coup, on a compartimenté ça en trois grands constats. Le premier, c'est que les violences sexistes, sexuelles et discriminatoires forment un continuum. Donc ça nous a permis de définir une typologie de violence, donc comme je disais tout à l'heure, verbale, physique ou symbolique. Ça nous a permis d'identifier un cadre spatio-temporel où donc du coup se déroulent ces violences, donc autour, avant, après et pendant les temps de travail des artistes et professionnels. J'ai oublié de préciser ça depuis le début, mais du coup nous, notre échantillon, donc c'est principalement des artistes et professionnels, qui sont parfois bien sûr publics, mais en fait elles viennent parler ou témoigner en tant qu'artistes et professionnels de ces secteurs-là. Donc l'identification d'un cadre spatio-temporel, donc un parcours de violence, et les personnes autrices, et donc ils nous ont permis d'identifier en fait quel poste ou fonction occupaient ces personnes, et d'identifier que nous sommes tous et toutes concernés, et que c'est l'écosystème entier qui est concerné, parce que plusieurs rôles, en tout cas presque la totalité des rôles qui travaillent dans cet écosystème ont été cités dans les violences qui ont été du coup remontées en cercle. Donc un des premiers constats, c'est que ces violences surviennent de façon diffuse et omniprésente, et qu'elles traversent du coup donc l'ensemble des espaces et des temporalités de travail au contact de tous les corps de métier du secteur. Le deuxième grand constat, ça a été l'identification de facteurs aggravants, tu t'en parlais tout à l'heure, Julie, mais qui sont très spécifiques en fait à l'écosystème nocturne, au fait que ça soit des temporalités donc de nuit, qu'il y ait des fortes surexposition et une banalisation et parfois un manque de sensibilisation à la consommation d'alcool, aux prises de substances et plein d'autres facteurs en fait qui sont cumulatifs et qui du coup amplifient en fait un facteur aggravant donc qui amplifie le fait que ces violences puissent avoir lieu et qu'elles aient lieu des fois dans un climat permissif, c'est-à-dire qu'on les laisse arriver et qu'elles sont très dures à dénoncer puisqu'on observe aussi un enracinement du silence tout simplement autour de ces violences notamment par un facteur aggravant qui nous a été assez on a été assez surprise mais pas surprise parce qu'on le vit aussi en tant qu'artiste, c'est qu'il y a une porosité entre la sphère professionnelle et la sphère intime dans ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on est amené à travailler avec des personnes qui sont à la fois nos managers, bookers, contracteurs, on va dire, mais qui sont aussi parfois des amis ou des relations de travail qui se transforment en amitié. Et c'est aussi beaucoup de temps off, en fait, hors des temps de travail, sur les temps informels, sur les after-work, sur vraiment tout ce qui est temps off autour des temps de travail. Donc ça fait partie des facteurs aggravants, donc le deuxième constat. Et le troisième et dernier, c'est que ces violences ont des impacts psychologiques et concrets sur les vies et les carrières des artistes et des professionnels. Donc, bien sûr, les impacts psychologiques influent aussi sur les impacts concrets de carrière. Et par exemple, pour je dois faire plus vite, c'est ça?
Non, ça va, il reste encore un peu de temps, t'inquiète.
Je finis rapidement, mais du coup, pour donner des exemples en fait, concrets d'impact psychologique, donc il y a une perte d'estime de soi, santé mentale fragilisée, un isolement social, un évitement de certaines situations, par exemple, ou contexte, de l'anxiété. Ça peut aussi faire des formes de dépression, des stress post-traumatiques ou des sentiments de honte ou des difficultés en fait, à témoigner de ce qui a pu se passer. Et pour les exemples concrets sur les carrières, ce qui nous est remonté fréquemment, c'est des difficultés à se rendre sur son lieu de travail. Ça peut être des difficultés à performer également sur scène, parce que c'est aussi très lié forcément. Des mécanismes d'autocensure, des pertes d'accès à certains réseaux professionnels, c'est-à-dire après avoir dénoncé une violence, ne plus se faire rappeler, ne plus être contractualisé, même devoir pour certaines personnes changer de vie radicalement, changer de réseau professionnel et social, et changer de ville, et parfois même des abandons de carrière. Et un truc assez choquant aussi qu'on a pu donc constater, c'est que donc nous, notre panel, c'est entre 22 et 44 ans, donc il y a des stades d'avancement différents en fait dans les carrières. Ça peut être de débutante à carrière très avancée, et à chaque étape de carrière, il y a la presque totalité des participantes ont pensé à abandonner parce qu'il y a eu des expériences traumatisantes ou des violences qui étaient compliquées en fait à faire remonter ou à dénoncer, où il y avait cet isolement où c'était impossible d'en parler. Et donc il y a eu il n'y en a pas beaucoup qui ont fini par abandonner, heureusement, mais il y a quand même ce songer à abandonner de carrière ou de changer de trajectoire à cause de ça. Donc voilà pour nos trois principaux constats. C'est dur d'être clair, il y a plein de choses.
Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais on est d'accord que les auteurs des violences sont majoritairement des hommes.
La plupart, à part dans deux cas, sur les 84 témoignages analysés, à part dans deux cas, la majorité sont en effet, les personnes autrices sont des hommes cis.
Voilà. Et pour Julie, dans ton enquête, on retrouve un peu des résultats similaires ?
Concernant les personnes qui ont commis les violences, nous on n'a pas de données là-dessus. Après, les chiffres au national montrent que dans 9 cas sur 10, en ce qui concerne les violences sexuelles, elles sont effectivement commises majoritairement par des hommes, quoi.
Pour terminer, je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'on peut lire dans l'enquête de Consentis. Vous dites « C'est pourquoi les réponses à apporter doivent être pensées de manière globale, intersectionnelle, co-construites avec les premières et les premiers concernés et surtout centrées sur la transformation profonde des environnements festifs. » J'imagine que vous partagez aussi ça chez Au-delà du club. Mais comment est-ce qu'en fait on peut réellement transformer profondément cet environnement festif-là ? Parce qu'on parle souvent du rôle des clubs, des associations de prévention, on peut aussi parler du rôle du public. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment changer ou mettre en place aujourd'hui selon vous ?
Vaste question. Nous, on reste sur notre credo qui est quand même globalement le même depuis plusieurs années, mais c'est vraiment partir à tous les niveaux. Les organisations, comment elles peuvent se former, mieux comprendre, mieux agir, mieux réagir en cas de problème. Le public, comment on peut lui parler, comment on peut parler aussi aux professionnels du secteur pour qu'ils comprennent ce qui se passe pour eux, qu'ils comprennent ce qui se passe pour les personnes qui les entourent en tant qu'alliés potentiels aussi, pour réagir et arrêter d'être dans de la non-action et commencer à sortir de sa zone de confort et aussi mettre les mots sur des situations de violence desquelles on est témoin quand notamment on est en position de privilège et qu'on a la main pour faire bouger les autres personnes en position de privilège.
privilèges pour faire pencher la balance de l'autre côté. Donc il y a, en fait, à tous les niveaux, on croit très fort au collectif, au fait que les espaces festifs sont très beaux et qu'à ce titre, ça peut être des espaces transformateurs. On peut porter des petits modèles de société où ça fonctionne un peu moins mal que dans le reste de la société. Et du coup, profiter de ces espaces pour faire du partage de modes d'action et du partage de modes de pensée aussi pour montrer qu'il est possible de faire autrement, d'en faire des espaces où on se sent bien et d'exporter ça dans nos autres sphères de vie, en fait, au travail, à la maison, etc. Donc on pense que chacun peut agir individuellement en se questionnant sur ses actions, sur les actions de ses proches, des gens avec qui elle travaille ou avec qui elle sort. Et à plus grande échelle, bah justement, essayer d'agir, toi, sur les personnes que tu connais qui sont pas très clean et qui ont des comportements problématiques, et être là pour les personnes victimes, les croire, les aider, les soutenir. Moi, c'est ça, mon...
Trop bien. Bah, déjà, 100% d'accord. Et moi, c'est aussi... Nous, je pense, ce qui nous anime avec Au-delà du club, c'est travailler sur... les récits, les imaginaires, les référentiels, porteurs d'espoir, et en gros faire porter ces mots-là, ces voix-là de personnes que nous, on interviewe, on donne un espace dans nos revues, par exemple, pour l'écriture, pour la diffusion de connaissances ou en fait d'utopie, en fait, d'utopie festive qui existe déjà et qui sont déjà portées par des artistes ou des collectifs ou des assos qui luttent en fait quotidiennement pour transformer positivement. Et en fait, on l'a vu, on est tous et toutes un peu dans cette mouvance post-MeToo qui a transformé radicalement et la société, mais du coup, par extension, nos espaces festifs et aussi nos façons de militer et de lutter. Et du coup, c'est un peu ça. Nous, c'est par l'imaginaire, par les mots, par les récits. Moi, j'ai aussi appris énormément. Mon expérience, en fait, en tant que public ou en tant que personne qui va dans les espaces festifs a considérablement changé au fil des années. Et en fait, Consentis, par exemple, en a fait... ça m'a grave... en fait, au fil des années, et juste travailler sur les mots, les définitions, la pédagogie, éduquer, mais en essayant de co-éduquer, et c'est ce que tu disais aussi, il y a cette co-responsabilité, cette co-veillance les uns les unes des autres, et être actif et active collectivement.
On peut les retrouver où, ces enquêtes?
Sur le site de consentis.info, il y a notre rapport d'enquête, et le vôtre, c'est plus.
Je sais qu'il y a un drive.
Où est-ce qu'il est ?
Non, il y a un drive Réinventer la nuit. En fait, il y a tous les liens dans nos bios des comptes Instagram, Au-delà du club, Réinventer la nuit, peut-être même Consentis. Donc, c'est tout simple. C'est en un clic. Il y a un drive avec la version condensée et la version.
Ça, c'est pratique.
Oui, la version entière. Donc, qui est assez longue et dense parce que on laisse place à ces témoignages intimes et ces vécus intimes. Et une version condensée qui rappelle du coup tous les principaux constats, les pistes d'action concrètes et un peu tout le contexte de l'étude.
Eh bien, merci beaucoup Sarah et merci beaucoup Julie. Alors, je rappelle, donc on recevait Sarah Gamrani et Julie Laloué, toutes deux co-autrices ou autrices de chacune et co-autrice d'un rapport. Sarah Gamrani était co-autrice de l'étude Briser le cercle et Julie Laloué de l'étude Nos nuits sous tension sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Je vous remercie encore. C'est la fin de cette grande interview et tout de suite, c'est Hélène pour... Le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Vas-y Hélène, c'est à ton tour.
Bonsoir Hugo, on part tout de suite dans les Caraïbes où un événement rare est en train de se produire, la rencontre de Imelda et Humberto. Non, ce n'est pas une histoire d'amour, on parle ici de deux tempêtes, c'est un phénomène rare, moins de 10 fois en 40 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'en fusionnant, Humberto, qui était un ouragan majeur de catégorie 4 sur 5, a perdu de sa puissance et on en sentira d'ailleurs les effets très atténués en France puisque vendredi et samedi, on aura des rafales pouvant atteindre quand même 110 km/h dans le nord-est du pays. À l'autre du bout du monde, au Vietnam, c'est un typhon qui a frappé le pays dimanche, provoquant des vents violents, des crues soudaines et des inondations. Avec pour bilan à ce jour plus de 100 000 maisons endommagées et près de 26 morts, c'est le 10e typhon à frapper le Vietnam cette année. À croire que la nature a décidé de répondre directement à Donald Trump, qui expliquait la semaine dernière à l'ONU que le changement climatique était la plus grande arnaque de l'histoire. On part ensuite à Madagascar, où le mouvement Gen Z, Génération Z, qu'on reconnaît notamment à leur drapeau pirate tiré du manga One Piece, appelait aujourd'hui à un nouveau rassemblement. la jeunesse malgache s'est levée pour s'opposer notamment aux incessantes coupures d'eau et d'électricité et un ras-le-bol de la corruption. Le mouvement est violemment réprimé par le président Andry Rajoelina, au pouvoir de 2009 à 2014, puis réélu en 2018 et en 2023. En France maintenant, où Emmanuel Macron recevra ce soir des élus de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte. Ils ont été invités à dîner par le président de la République pour évoquer, je cite, « l'évolution des institutions ultramarines ». Troisième dîner en 3 ans, la rencontre est pour l'instant accueillie avec une certaine circonspection dans les Outre-mer. Et le sénateur de la Guadeloupe, Victorin Purel, a d'ailleurs décidé de le boycotter. En France, toujours une bonne nouvelle, il en faut parfois. L'acétimipride, qui ne te dit peut-être pas grand-chose, Hugo, mais non, sous un autre nom, qui est l'insecticide utilisé par les particuliers, notamment contre les fourmis, les cafards et les autres nuisibles, qui avait fait parler de lui au moment de la loi Duplon, ne sera plus commercialisé en Europe pour les particuliers à partir de 2027. En effet, la date butoir pour demander un renouvellement de l'autorisation était fixée au 30 juillet et aucun industriel ne s'est présenté. L'association Génération Future appelle désormais à son interdiction totale au niveau européen, y compris en agriculture. France toujours, n'oubliez pas sur vos agendas du week-end la fête de la science qui démarrera vendredi prochain. Cette année, le thème sera l'intelligence, vaste programme. Un super ciné-débat sur Blade Runner entre science-fiction et recherche scientifique contemporaine, très tentant mais qui se tient en Nouvelle-Calédonie. Plus près de nous, en région parisienne, on trouvera à l'ENS Saclay par exemple, une plongée dans l'univers de la police scientifique avec une enquête à résoudre, ou bien à la faculté de médecine Sorbonne Université, un escape game alerte contagion, consistant à trouver un vaccin et juste sauver le monde d'une nouvelle pandémie, ou enfin des lunettes de simulation pour explorer les effets de l'alcool et du cannabis, vaste programme. Et avant de conclure, une petite info flash urgente, on a frôlé ce soir à Paris un incident grave, l'annulation de la matinale car on manquait de personnes. Il y a de nouveaux bénévoles en train d'arriver, mais étudiants et étudiants, n'hésitez pas à venir nous voir près de Bastille, l'équipe est top, les locaux sont super, les micros ouverts à tous et toutes, et on vous attend.
Eh bien, merci beaucoup Hélène pour ces infos bonnes comme mauvaises. Et tout de suite, avant le Zoom, vous retrouverez Take Me By The Hand de Oklu feat. Blady.
She was stuck. Only a reflection of us could have worse the situation.
Beautiful. reflections of Mars. Hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
C'était Take Me By The Hand de Oclou featuring Blady. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est toujours Hugo à l'animation et tout de suite, le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors le Zoom aujourd'hui vous sera présenté par Uber et son invité s'appelle Olivier Michel, c'est le directeur de La Pop qui vient nous parler du festival Remix qui aura justement lieu à La Pop.
Bonjour Olivier, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, petite question pour commencer. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Péniche Pop ?
Alors, c'est un lieu qui a ouvert en 2016. C'est un lieu d'accompagnement artistique.
D'accord.
Pluridisciplinaire et qui nous questionne sur nos liens avec les sons et la musique. À quoi servent les sons ? Quels sont leurs rôles pour nous en tant que personne, en tant que communauté, en tant que société ? En tant qu'écosystème, et les projets qu'on accompagne donc, sont très souvent créés dans le lieu. Donc en tant que spectateuriste, quand vous venez à La Pop, vous découvrez des projets qui émergent et qui sont présentés pour la première fois au public. Donc c'est vraiment un lieu de première. Et l'accompagnement artistique se fait de différentes manières. C'est beaucoup de résidences artistiques, du conseil, de l'accompagnement en production, des dates de création. Voilà. Donc c'est vraiment une fabrique autour pluridisciplinaire. Donc quand je dis pluridisciplinaire, donc pour vos auditrices, auditeurs, on découvre des spectacles de théâtre, de danse, de cirque, évidemment de musique, de création sonore, de radio, parfois de littérature, de cinéma, mais qui ont comme point commun de poser une question sur les sons et la musique.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Pouvez-vous nous raconter un peu comment vous est venue l'idée de faire de cette péniche un lieu culturel?
Alors, c'est un lieu qui a succédé à la Péniche Opéra, donc qui était un projet antérieur. Mm-hmm. On a gardé le P de péniche et le Hop de opéra, donc ça donne la Pop, qui est un mot polysémique, qui renvoie à beaucoup de choses, c'est quelque chose d'inattendu.
Petite oui. Précision pour nos éditeurs, pouvez-vous traduire polyphonique ce mot que...
Oui, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent.
Non, le mot pop renvoie... Ah oui, polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, oui, pardon, oui, excusez-moi. Ouais. il a plusieurs significations. Donc quand on dit pop, on pense populaire, on pense pop art, pop musique, enfin, voilà, donc ça a beaucoup de sens. D'accord. Et la définition initiale renvoie plutôt à un genre musical qui existe depuis les années 50 et qui est une sorte de synthèse de plusieurs genres. Donc tout à l'heure, on évoquait les Beatles, les Beach Boys, qui sont des musiques qui agrègent beaucoup de genres musicaux. Voilà, et c'est fugace. Voilà, il y a le mot pop, c'est toujours très rapide, c'est inattendu, c'est léger.
Ouais, on entend aussi derrière la K-pop, la J-pop.
Ouais, il y a plein de choses. En tout cas, c'est un genre, une pratique qui se veut ouverte, inclusive, qui touche tout le monde. Et voilà, donc c'est de là on a gardé ce mot pop. Donc et l'opéra, en fait, qui est la référence de départ, ce qu'il y a d'intéressant, et je fais le lien avec le festival Remix, c'est que c'est un endroit, l'opéra est un genre musical, un genre artistique, qui est le premier genre qui a rassemblé d'autres genres. Donc dans l'opéra, si vous êtes amené à aller voir de l'opéra, il y a de la danse, du chant, de la musique, du théâtre, de la scénographie, enfin c'est un genre qui réunit différentes disciplines artistiques. Et c'est ce qui caractérise aussi ce festival.
D'accord, le côté inclusif de ce festival qui a lieu jusqu'au 11 octobre, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Et vous pouvez nous parler des prochaines représentations qui ont lieu ?
Bah, je peux en parler brièvement. En fait, je peux juste dire que ce festival existe depuis 2020. C'est un festival de performance qui a une particularité, outre le fait qu'il est à l'automne, c'est qu'il réunit des artistes qui ont plusieurs pratiques artistiques comme savoir-faire, donc qui peuvent être chanteuses et chorégraphes par exemple. L'autre chose, c'est que ce sont des objets qui sont présentés pour la première fois et qui sont travaillés sur un temps extrêmement bref. Ça, c'est vraiment la particularité de ce festival, c'est-à-dire qu'on convie ces artistes à performer au mois de juin pour une création en septembre. Donc c'est un temps de travail très très court, mmh. avec un temps de maturation très 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 bref et un temps de travail au plateau encore plus court, puisqu'ils ont 2 jours et demi de répétition sur le plateau. Et l'autre particularité, c'est qu'on travaille sur l'autre particularité, c'est que c'est la musique qui est la source d'inspiration. Donc à chaque samedi, il y a une musique différente et la musique s'inscrit dans un thème qui change tous les ans, qui est souvent lié à l'actualité.
Et donc, du coup, le thème de ce festival,
c'est Extase et Volupté. En général, on travaille sur des thèmes qui résonnent avec l'actualité. Et là, comme on a considéré que l'actualité est particulièrement déprimante, il faut bien le dire, on a choisi de sortir de l'actualité qu'on vit et qui nous écrase un peu plus tous les jours, pour travailler sur une fonction de la musique qui est même anthropologique, qui est la question de comment la musique nourrit nos désirs, mm-hmm. et participe à, disons, nous faire du bien, et souvent de point de vue charnel. Donc c'est vraiment le lien entre musique et sexualité qui traverse ce festival.
D'accord, la manière dont elle permet d'éveiller un peu ces instincts un peu... primaire, qu'on pourrait appeler comme ça.
Bah, pour certaines chercheuses et chercheurs, dont certains qui sont au comité scientifique de la POP, la musique participe à la reproduction de l'humanité. Donc elle est au cœur Enfin, je ne connais pas de société où il n'y a pas de musique. Bon, il y a des sociétés où la musique est interdite, en l'occurrence parce qu'elle est liée à cette fonction de reproduction, de désir.
D'accord.
Mais bon, ça sera un vaste débat, mais en tout cas, c'est un proto-langage, et donc elle aurait pour fonction de nous aider, de nous donner envie, de nourrir nos désirs variés.
Une manière de se réapproprier un peu ses désirs, ses volontés.
Oui, puis il y a des musiques qui sont dédiées, en fait, qui ont été conçues, composées pour nous faire du bien. Bon, si vous allez sur des plateformes musicales, les playlists sont organisées par thème. Il y a le thème romance, alors on ne dit pas sexualité, hein, donc on dit romance, soirée, etc. Mais ce sont des musiques qui ont cette fonction, en fait.
D'accord.
Et donc les samedis, si j'ai bien compris, c'est les samedis en musique pour faire société, pour se réunir.
C'est les samedis où, quand on vient à la péniche, on découvre 2 voire 3 performances réalisées par 3 équipes artistiques différentes qui ne travaillent pas ensemble pendant l'été, oui. mais qui proposent un geste, donc plutôt une performance, qui s'inspire d'une même musique. Donc chaque samedi, la musique change. Donc la semaine prochaine, c'est Donna Summer, qui est une musique plutôt populaire. Et le samedi suivant, le samedi suivant, c'est Sheikha Remiti, qui est une grande chanteuse algérienne qui a inventé le raï, qui est une chanteuse qui avait des textes très subversifs. C'est la source d'inspiration de ce dernier samedi, donc le 11 octobre. Et les 2 précédents samedis, les musiques étaient celles de Claudio Monteverdi, donc qui est un compositeur de la baroque et qui a d'ailleurs été un des premiers à produire des opéras. Et la semaine dernière, c'était Karlheinz Stockhausen, qui est un compositeur plutôt du répertoire contemporain. On choisit des musiques qui viennent de différents répertoires, donc musique patrimoniale, musique contemporaine, musique actuelle et musique extra-européenne.
D'accord.
Et on réunit des équipes artistiques autour de ces musiques.
Et vous avez un retour pour l'instant sur ces différentes représentations par le public ?
Et ce sera la dernière question.
Alors, comme ce sont des gestes très fugaces, des performances qui ont été travaillées dans un temps très réduit, très souvent les artistes reprennent ces performances, les retravaillent, D'accord. et vous pouvez les retrouver dans des théâtres, là à l'automne, Rebecca Chaillon, au théâtre de Gennevilliers, ou A.T.J. Hauser, qui a créé à la POP il y a 2 ans, avec une pièce qui s'appelle Coudour, qui est à la MC93. Donc, c'est des pièces qui mûrissent et que vous pouvez voir. Donc, plein de théâtres en Île-de-France.
Très bien, d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'était Olivier Michel, directeur de la péniche La Pop, que vous pourrez trouver dans le 19e arrondissement, merci, sur lequel il y a actuellement lieu le festival Remix, donc le festival Remix à La Pop jusqu'au 16 octobre. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. C'est l'heure de... C'est bientôt la fin de la matinale, mais on ne vous abandonne pas tout de suite. Mais pour l'instant, c'est la pause musicale avec Prendre corps de Claudine Simon et Élise Dabrowski. Oui.
Je te flore. Tu me faunes. Je te peau, je te porte et te fenêtre. Tu m'oses, tu m'océans, tu m'audaces, tu me météorites. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysme. Tu me paroxysme et me paradoxe. Je te clavecin, tu me silencieusement, tu me miroir, je te montre, tu me mirage. Parabole, tu me debout et couché, tu m'obliques. Je t'équinoxe, je te poète, tu me danses, je te particulier, tu me perpendiculaire et souvente, tu me visible, tu me silhouette, tu m'infiniment, tu m'indivisible, tu m'ironie. Je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe. Tu m'espace, tu me cascade, je te cascade en mon tour, mais toi, tu me fluide. Scandaleusement jour et nuit, nous aujourd'hui même, tu me tangentes, je te concentrique, tu me soluble, tu m'insoluble, tu m'asphyxiant et me libératrice, tu me pulsatrice, tu me vertige, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolue, je t'absente, tu m'absurde, je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hante, je te poitrine, je buste ta poitrine, puis te visage, je te corsage, tu m'odores, tu me vertige, tu glisses, je te cuisse, je te caresse, je te frisse, tu me jante, tu m'insupportable, je t'amazone, je te mange, je te montre, je te suis, je te fais, je te bats, je te
rompage.
C'était Claudine Simon et Élise Dabrowski dans Prendre Corps. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est toujours Hugo à l'animation. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique libre.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et ce soir, on retrouve Fabien. Alors Fabien, qu'est-ce que tu as à nous raconter ce soir ?
Eh bien, bonsoir déjà, bonsoir. Eh bien, moi, je vais vous parler de quelques infos insolites qui sont passées ce mois-ci. Et on commence tout de suite, on va dans une cathédrale, c'est des motards. Donc ce dimanche, le père Bruno Marie a béni près de 40 motards. Donc c'est pas très... Enfin si, c'est original justement, qui étaient rassemblés sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Les motards, ils ont défilé un par un devant le père Bruno Marie, perché sur les marches de la cathédrale avec une branche de buis. Le père Bruno Marie, hein, pas les motards. L'événement qui représentait une première à Notre-Dame de la Treille était aussi placé sous le signe de la solidarité. En plus d'une balade, les motards ont organisé ce jour-là un repas festif pour soutenir une association caritative. Les fonds récoltés pendant cette journée ont été reversés à l'association La Tribu d'Angelman. Et puis, donc, une galerie d'art de Beverly Hills à Los Angeles propose une exposition pas comme les autres depuis le mois d'août. Les œuvres ont été conçues à partir des joints fumée par le célèbre rappeur américain Snoop Dogg. Les mégots sont scellés dans l'époxy. Comment ?
Je suis même pas étonné.
Et donc les mégots, ils sont scellés dans l'époxy. C'est une résine synthétique. Les 7 premières pièces de la série H2R, des cendres à l'art, ont atteint un total quand même de 126 400 euros. L'une des œuvres a été vendue 59 800 euros et qui inclut la fameuse photographie d'identité judiciaire du rappeur, tant qu'on y est, capturée en 93 dans le cadre d'une affaire de meurtre dont il a été finalement acquitté. Quand on est une star, on peut décidément vendre n'importe quoi. Et ce qu'il se passe à l'intérieur d'une station de recherche soviétique abandonnée a de quoi nourrir l'imagination des scénaristes les plus fous. Mais sur l'île Koliouchin, dans la mer des Tchouktché, au large de la côte nord-est de la Russie, évidemment, vous avez bien compris, pas de base secrète ou de monstres expérimentaux, juste une vingtaine d'ours polaires qui ont colonisé les lieux. Partant ensoleillés, certains viendraient également s'allonger sur le ventre dans la cour pour profiter de la chaleur. Ils considèrent sans doute ces maisons comme un abri contre le vent et la pluie. D'après les chercheurs, les ours polaires passeraient de plus en plus de temps sur la terre ferme en raison de la glace de mer qui ne cesse de fondre à cause du changement climatique, justement celui qui n'existe pas d'après Donald Trump. Migrant de plus en plus au sud, ils arrivent parfois jusqu'à des villes ou des villages polaires. Et enfin, à San Rafael, en Californie, des habitants se sont retrouvés face à un agresseur inhabituel. Ils sont plusieurs à avoir rapporté des attaques perpétrées par un écureuil brun. Ce comportement est inhabituel pour les écureuils et est probablement dû au fait que quelqu'un le nourrit. Des agressions violentes qui ont envoyé certaines victimes à l'hôpital quand même. Des affiches ont été placardées dans le secteur expliquant que ce n'est pas une blague. Plus de 5 personnes ont été attaquées par un écureuil très méchant au cours des derniers jours. Et puis on termine avec Patrick Fiori. C'est une rencontre improbable en pleine nuit sur une route corse. C'est arrivé à une sexagénaire originaire de Bretagne lundi 8 septembre. Alors qu'elle rentrait en voiture avec son mari près d'Ajaccio, elle est tombée en panne et une voiture s'est arrêtée. Un homme est descendu du véhicule et s'est approché et leur a demandé si tout allait bien. Et c'était Patrick Fiori qui leur est venu en aide. Le chanteur n'est autre que l'idole du couple et il a été simple, direct, humain. Il a proposé son aide et a même offert de les raccompagner. Le couple revenait justement d'un concert donné par Patrick Fiori et ils n'ont évidemment pas manqué de capturer un souvenir de cette rencontre impromptue. Même si nous sommes moches sur la photo, ça restera gravé à vie.
Eh bien, merci Fabien et merci Patrick Fiori pour son aide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est malheureusement la fin de la matinale de 19h. C'était Hugo à l'animation. Je remercie nos invités Sarah Gamrani et Julie Laloué, ainsi que Olivier Michel pour du festival Remix à la Pop, Hélène au Flash Info, Hubert au Zoom et bien sûr Fabien pour sa chronique à la Réal. Je suis désolé, je ne me rappelle plus ton prénom.
Joé,
merci Joé. Je remercie aussi Aude et Jeanne pour la coordination de l'émission. On revient demain, même heure, même fréquence. Et pour les podcasts de Radio Campus Paris, rendez-vous sur radiocampus.org. Et pour suivre l'actualité de l'émission, c'est sur Instagram, @lamatinale-rcp. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Radio.